Le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro du magazine des Nations Unies de l'année. Nous vous souhaitons de passer une heureuse et belle année en notre compagnie. Et tout de suite, les titres. Après l'échéance du 2 janvier, les FARDC et la MONUSCO se préparent à lancer les opérations militaires conjointes contre le FDLR réfractaire au désarmement volontaire. C'est d'ailleurs l'une des trois priorités de la MONUSCO en 2015. La question a été au centre de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Notre analyse du sujet dans cette édition. Un autre front mené jusque-là avec succès, c'est celui engagé conjointement par les FARDC et la MONUSCO contre les rebelles burundais du FNL, le Front National de Libération. Il en sera question justement avec le porte-parole militaire de la MONUSCO. Il est notre invité. Enfin, plus de 215 000 personnes ont reçu en 2014 dans l'Est de la RDC des semences dans le cadre d'un programme mis en place par le CICR pour soutenir la reprise de la production agricole. Dans cette édition, un responsable de cette organisation humanitaire nous en dira plus dans la rubrique décryptage. Et c'est tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour encore une fois. D'abord, l'actualité de la semaine, ce sont les opérations militaires imminentes contre les FDLR. C'est le sujet central traité à la téléconférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Les préparatifs pour le désarmement forcé des FDLR sont en cours et les opérations militaires vont bientôt commencer. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a été très clair à ce sujet. C'est ce que va nous expliquer Jean-Pierre Elali Coco. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Lydie Bettina. Martin Kobler a été très clair. L'évaluation est décevante. Le processus de désarmement volontaire des FDLR n'a pas été crédible, pas sincère et donc pas suffisant. L'option militaire est l'unique solution à envisager maintenant. On l'écoute.
C'était un processus qui était pas crédible, pas sincère, et le processus, selon notre avis, du désarmement volontaire des 6 mois, c'était très très généreux, a produit 357 combattants qui se sont rendus avec leurs dépendants, et c'est pas suffisant. Notre conclusion est, il ne faut pas étendre ces délais du 2 janvier. Il faut maintenant vraiment entrer conjointement avec les FARDC en action militaire.
Seuls 357 FDLR se sont rendus. La moisson est donc maigre par rapport aux attentes de la communauté internationale. Pourtant, au moins 1,6 million de dollars ont été engagés pour aménager les centres de réception des FDLR à Kisangani et à Kanyabayonga, selon Martin Kobler. Mais la grande question, Bettina, est de savoir si la MONUSCO et les FARDC disposent des marges de manœuvre pour mener ces opérations conjointes sur plusieurs fronts, à la fois contre les ADF, les FNL et contre les FDLR. Des FDLR qui sont un groupe armé très compliqué qui vit avec ses dépendants, mais aussi parmi les réfugiés rwandais et la population civile. Comment, dans ces conditions, séparer les bons grains des livrets? Martin Kobler répond que la MONUSCO a des capacités.
Ensemble avec les FARDC, on continue les opérations à Beni, dans les environs de Beni, conjointement avec les FARDC aussi. Mais maintenant, la première priorité, c'est conjointement avec les FARDC de lancer les opérations militaires contre les FDLR. De notre côté, on a les capacités de faire toutes les choses. Et on va combattre les combattants des FDLR. On ne va pas mener une guerre contre les réfugiés rwandais. On ne va pas avoir une guerre contre la population civile. Ce sont seulement les combattants.
Autre préoccupation, comment concilier le retrait des 10% des casques bleus proposés par Ban Ki-moon et ses opérations qui nécessitent un engagement important des troupes? Pour Martin Kobler, vous allez l'entendre, ce n'est pas le nombre qui importe, c'est la qualité.
C'est pas le chiffre qui compte, c'est la qualité des troupes qui compte. On a essayé d'établir une autre force à l'est du pays, plus souple, plus flexible, plus robuste. C'est pourquoi avec moins moins de troupes, on peut faire la même chose. Avec moins de troupes, on pourrait faire la même chose, même plus. Alors, c'est pas seulement le nombre qui compte, c'est la qualité et la performance des forces.
Quand et comment seront menées ces opérations conjointes? Les seront-elles simultanément dans les trois provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et le Nord Katanga? Ou faudra-t-il cibler une province au départ? Le général Jean Bayou, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, répond.
Les décisions d'opérer simultanément ou successivement, ce sont nos décisions. C'est des décisions de militaires. Ce que nous avons déjà démontré, c'est que nous avons la capacité d'opérer partout. Je pense que maintenant, les chefs de ces différents groupes, la hiérarchie du FDLR, doit réfléchir très fortement parce qu'ils savent que nous pouvons frapper partout.
Enfin, deux autres priorités pour la MONUSCO cette année, Bettina, d'après toujours M. Kobler, c'est la stabilisation du pays et surtout dans les zones libérées et aussi le travail sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Merci Jean-Pierre pour cette analyse.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le comité international de la Croix-Rouge ne s'occupe pas que des blessés et des morts, mais aussi des survivants, notamment par des actions concrètes de développement. Comme annoncé, nous recevons Monsieur Patrick Mejvan. Il est coordonnateur de la section prévention au comité international de la Croix-Rouge RDC à Kinshasa. Il nous donne ici les éclaircissements sur les projets agricoles de son institution qui contribuent à rétablir les moyens de subsistance des communautés agricoles et leur permet de retrouver leur autonomie financière. Monsieur Mejvan répond aux questions d'Honoré Missengakalala.
Monsieur Patrick Mejvan, bonjour.
Bonjour.
La mission première du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, c'est d'abord de venir en aide aux militaires blessés, à toutes les autres victimes des conflits et d'autres situations de violence. Mais ce qu'une bonne opinion ne savait pas jusqu'alors, c'est que vous êtes aussi en quelque sorte une agence de développement, puisque vous êtes dans des projets agricoles dans l'est de la RDC. Quels sont ces projets et est-ce que vous pouvez en même temps motiver la mise en place par le CICR de tous ces projets?
Oui, effectivement, comme vous l'avez souligné, notre mission première, c'est d'abord de protéger et assister les victimes des conflits. Ainsi, lorsqu'une personne, une famille, ou voire toute une communauté n'est plus en mesure de pourvoir à ses besoins essentiels, hein, nourriture, abri, vêtements, etc., le CICR intervient. Donc les projets agricoles sont destinés à redonner les moyens aux populations civiles victimes de ces violences, comme les populations déplacées, ou alors celles qui viennent de retourner chez elles, voire les communautés hôtes, hein, qui accueillent ces personnes déplacées, de produire de la nourriture dont elles ont besoin. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, elles ont tout perdu. Il y a eu des pillages, des vols, des destructions, il y a une perte d'accès aux champs habituels, etc. Donc ici, on parle vraiment d'action d'urgence, parce que c'est une réponse rapide, ponctuelle, à une situation humanitaire qui a été générée par un conflit. Donc c'est plutôt une action d'urgence qu'une action de développement qui, elle, se situe sur le long terme. Et cette aide d'urgence peut prendre différentes formes, comme des activités associées à l'agriculture, telles que la multiplication des semences, voire même de la formation pour les agriculteurs.
Oui, mais nous sommes au début de 2015, les projets ont commencé en 2014. On peut déjà avoir une idée sur le bilan de ces projets en 2014?
Absolument. Parlons d'abord des objectifs, si vous le voulez bien. L'objectif de ces projets, c'est donc de produire de la nourriture, hein, pour couvrir les besoins essentiels alimentaires des ménages. Donc ici, on parle de manioc, de haricots, de maïs, etc. Mais également de générer des revenus pour les mêmes ménages par la vente de produits agricoles. Ici, c'est principalement l'arachide dont on parle. C'est pourquoi le CICR distribue à travers ses programmes des semences de très bonne qualité pour assurer une production suffisante au niveau du ménage. Donc ces familles vivent essentiellement de l'agriculture, donc pour relancer leur activité, afin qu'elles prennent un nouveau départ, nous avons donné ces semences au début de la saison agricole, la saison des pluies en septembre de l'année passée. Et l'impact commence à se faire ressentir dès cette année, enfin dès ce mois, ce début d'année 2015, avec les premières récoltes qui sont attendues principalement dans les provinces de l'Est et un peu plus tard dans le Katanga. Ici, on parle de plus de 215 000 personnes assistées par le CICR.
Dans l'Est de la RDC.
Exactement.
Est-ce qu'il y a un impact socio-économique visible dans cette région avec ces projets?
Bon, l'impact se situe essentiellement au niveau des communautés concernées, hein, qui retrouvent de l'autonomie en devenant moins dépendantes, d'une part, de l'aide humanitaire, mais également de la solidarité traditionnelle. Hein. Ça permet également d'alléger le poids sur les communautés qui accueillent ces populations déplacées. Donc ces personnes, ces communautés vont récolter du maïs, du haricot, de l'arachide, etc. dès ce mois de janvier. Pour les maniocs, les boutures ont été distribuées à la même période, en septembre-octobre de l'année passée, mais il faudra attendre le dernier trimestre 2015 pour avoir les premières récoltes. 215 000 personnes ont été assistées en semences, donc maïs, haricots, arachides, légumes, des boutures saines de manioc qui sont résistantes à la mosaïque, une maladie qui attaque les plantations de manioc. Et également, nous avons fourni des outils aratoires et également dispensé des formations sur les pratiques culturales, donc pour avoir de bonnes techniques pour planter et récolter ces semences. Par ailleurs, ces familles, elles pourront également obtenir, je tiens à le souligner ici, des revenus hein, pour couvrir leurs dépenses, parce qu'une partie des récoltes est destinée à la vente. Donc ça implique, vous parlez des impacts socio-économiques sur la région, ça implique une injection de produits alimentaires supplémentaires, mais également un peu de cash financier dans les circuits économiques. Donc ça contribue à redynamiser, si l'on veut, la microéconomie locale.
Est-ce qu'on peut connaître les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la réalisation de ces projets?
Bon, la principale difficulté, avant tout, réside dans les conditions de sécurité, hein, qui parfois nous empêchent d'assister une population à cause de la reprise des violences. Et comme nous assistons des populations dans des zones très reculées, l'acheminement par accès routier également pose également de grandes difficultés. Et c'est vrai qu'à maintes reprises, on a dû suspendre, voire annuler des opérations de distribution suite à l'insécurité récurrente dans certaines régions. Mais là, j'insiste également sur le dénuement auquel se trouvent ces personnes affectées. Donc on fait tout notre possible vraiment pour les atteindre et les assister. Le dénuement est tel que généralement la distribution de semences inclut aussi des vivres, hein, comme du haricot, du maïs, du riz, de l'huile, du sel. Et pourquoi? C'est pour éviter que les semences ne soient tout simplement mangées. Parce que bien souvent, les bénéficiaires n'ont pas assez de nourriture. Donc on leur donne des semences, mais également des vivres. Comme ça, on s'assure qu'ils utiliseront effectivement les semences pour les cultures et qu'ils auront assez de nourriture pour tenir jusqu'à la prochaine récolte.
Oui, vous distribuez les semences, vous donnez de la nourriture, vous assurez aussi la formation technique. Est-ce qu'il y a un suivi de toutes ces étapes de vos projets?
Ah, c'est sûr, le personnel du CICR est spécialisé. Nous avons des collaborateurs spécialistes, des techniciens qui s'occupent du suivi et du bon déroulement du projet. Donc, il y a évaluation, il y a distribution, mais également un suivi avec les populations pour voir que les semences ont bien été plantées, récoltées de manière suffisante, ont produit assez. C'est un projet qui s'étale sur plusieurs mois. Il y a des visites régulières de la part de nos collègues agronomes sur le terrain auprès des populations.
Monsieur Patrick Mévin, en dehors des gens en conflit ou post-conflit, les victimes des catastrophes naturelles ou de graves épidémies, comme l'épidémie Ebola qu'on a connue dernièrement dans la province de l'Équateur, peuvent-elles aussi attendre du CICR des projets de ce genre?
Bon, vous savez, la Croix-Rouge est une grande famille, donc le CICR est une partie, est un membre de cette famille, avec une mission très précise que j'ai rappelée au début de notre entretien, donc c'est l'assistance et la protection des victimes de conflits. Maintenant, il y a d'autres membres de cette famille Croix-Rouge qui s'occupent des personnes dans le besoin, des personnes vulnérables, des personnes affectées par des désastres naturels, comme vous venez de mentionner, qui sont les sociétés nationales, donc la Croix-Rouge de la RDC pour la RDC, assistée d'autres sociétés nationales, d'autres pays qui peuvent venir en aide. Et également, il y a des autres ONG très spécialisées et compétentes en la matière. Donc le CICR peut assister les victimes de catastrophes naturelles pour autant que ces désastres naturels se soient produits dans une zone de conflit, comme par exemple en cas de tremblement de terre dans une zone conflictuelle ou par exemple le tsunami d'il y a 10 ans, où le CICR a assisté certaines populations qui se trouvaient dans une zone conflictuelle, mais toujours en collaboration avec la société nationale de la Croix-Rouge du pays concerné.
Nous sommes au début de l'année 2015. Qu'est-ce que vous avez un mot ou un message particulier par rapport à la mission du CICR en RDC?
Écoutez, je vais peut-être citer une de nos bénéficiaires du Sud Kivu, qui s'appelle Esther, qui nous disait ceci récemment. Voilà, nous avons planté vos semences, mais nous ne savons pas si nous pourrons profiter de la récolte. Ces dernières années, nous avons été déplacés plusieurs fois, nos champs ont été pillés, et nous espérons vraiment que la calmie actuelle de ce début d'année va se transformer en paix durable pour nous permettre de vaquer librement à nos occupations. Donc c'est cela mon mot de la fin, c'est gardons l'espoir, soyons avec Esther, et je transmets également mes voeux de santé et prospérité vraiment à tous les auditeurs et à tous les Congolais. Avec Esther, je crois qu'il y a vraiment de l'espoir pour ce pays.
Monsieur Patrick Mévin, merci.
Thank you.
bref, d'abord cette déclaration de Martin Kobler faite après la victoire des forces conjointes FARDC-MONUSCO contre le FNL. Faites le choix de la paix et désarmer volontairement. C'est l'appel du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Au-delà des FNL, la déclaration vaut pour tous les groupes armés opérant en RDC, y compris les FDLR qui doivent faire le choix de la paix, c'est-à-dire désarmer et rejoindre le processus DDR, cela avant qu'il ne soit trop tard. Toujours avec la MONUSCO, cette fois-ci dans le cadre de ses activités civiles, trois salles de classe d'une école de Dungu en Ituri ont été inaugurées le 17 décembre dernier. Les travaux de réhabilitation de ces salles ont été réalisés par le bureau de la MONUSCO Dungu sous les auspices du commandant de la brigade de la force onusienne en Ituri. C'est précisément le génie du contingent indonésien dans le cadre des projets à impact rapide pour un financement estimé à plus de 28 000 dollars américains. Enfin, droit des enfants, l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement demandé la réalisation d'une étude mondiale sur les enfants privés de liberté. Dans une résolution prise le 18 décembre 2014, l'Assemblée générale de l'ONU invite explicitement à conduire cette étude. C'est ce que révèle Défense des enfants internationale, DEI. Il s'agit d'une ONG qui a initié en mars 2014 la campagne en faveur de la réalisation d'une étude mondiale sur les enfants privés de liberté. DEI a bénéficié dans cette campagne du soutien notamment de plus de 60 ONG et États.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La MONUSCO et les FARDC ont lancé lundi dernier une opération conjointe contre les rebelles burundais du FNL. Une opération menée dans la province du Sud Kivu, particulièrement sur le plateau d'Uvira. Le magazine des Nations Unies revient encore sur l'interview accordée sur ce sujet par le lieutenant-colonel Félix Sobas, porte-parole militaire de la MONUSCO. Notre invité est interrogé par Michel Kifindangoy. Suivez.
Colonel Félix Sobas, bonjour.
Bonjour.
Nous venons de l'apprendre, la MONUSCO conjointement avec les FARDC ont lancé une opération dans le Sud Kivu. De quoi il s'agit concrètement?
Il s'agit d'une opération conjointe offensive qui a été lancée ce matin aux environs de 6h30 contre les bases des rebelles du Front National de Libération déployées dans la province du Sud Kivu, particulièrement sur les plateaux d'Uvira, dans une localité appelée Ruhoha qui est à 25 km à l'est d'Uvira. Donc conjointement avec les FRDC, nous avons initié cette offensive pour neutraliser ces groupes armés, ce qui rentre naturellement dans le cadre de notre mandat qui est non seulement de protéger les populations civiles, mais aussi de neutraliser tous les groupes armés, y compris le Front National de Libération qui, comme vous le savez, est un groupe rebelle burundais qui opère dans cette partie du Sud Kivu et qui commet des exactions graves contre les populations civiles et des violations de droits de l'homme.
Quelques heures après le lancement de cette opération, est-ce que vous avez déjà un bilan?
D'abord, il faut préciser que cette opération était prévue de longue date et qu'elle entre dans le cadre de l'opération Kamilisha Usalama 2 qui a pour objectif principal de neutraliser les groupes armés opérant dans les hauts plateaux d'Uvira. Donc, cette opération qui est conjointe nous a permis aujourd'hui, après avoir engagé les hélicoptères d'attaque de la MONUSCO, les hélicoptères sud-africains et les hélicoptères ukrainiens, nous avons pilonné les positions, les bases rebelles du FNL et avons en quelques temps réussi à contrôler toutes les bases qui étaient déployées dans la localité de Ruhoha. Donc présentement, la force de la MONUSCO et les FRDC sont sur le terrain en train de consolider les acquis, mais aussi parallèlement de mener des opérations de bouclage et de ratissage afin de traquer ces rebelles et de les neutraliser. Donc le bilan est positif pour le moment, mais il faut aussi préciser que du côté de la MONUSCO comme des FRDC, aucune perte ou aucun blessé n'est à déplorer pour le moment. Les opérations se poursuivent normalement, ce qui traduit notre détermination à remplir notre mission, qui est de neutraliser les groupes armés aussi bien au nord Kivu qu'au sud Kivu, avec la collaboration aussi bien des populations civiles, mais surtout la collaboration et la coopération des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ensemble sont tous déterminés à neutraliser tous les groupes armés, y compris le Front National de Libération.
C'est vraiment un exploit. Dans quelques heures, vous avez atteint les objectifs assez assez satisfaisant. Vous avez récupéré toute la base des FNL. N'est-ce pas là un signal fort pour les FDLR qui n'ont pas déposé leurs armes?
Mais tout à fait, ceci traduit à suffisance notre volonté et notre détermination à engager tous les groupes armés conformément au mandat qui nous a été donné par la résolution du 2147. Mais aussi, c'est un message clair, un message fort, un message très limpide à l'endroit des groupes armés, envers lesquels d'ailleurs nous ne cessons de réitérer nos appels pour que tous les groupes armés, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu ou ailleurs, dans la province du Katanga, puissent déposer les armes de manière pacifique, parce que nous avons un mandat et nous sommes déterminés à le remplir avec des hommes motivés, des hommes bien entraînés et des hommes bien équipés, mais aussi et surtout avec le concours inestimable des vaillants soldats congolais qui sont les forces armées de la République démocratique du Congo.
Le délai accordé au FDLR a déjà pris fin et pour le moment, toute l'opinion attend voir les opérations conjointes de la MONUSCO et FARDC contre les FDLR. Pourquoi ça traîne?
D'abord, il faut préciser que nous sommes prêts en termes de planification, nous sommes prêts en termes de préparatifs et vous savez aussi bien que moi que les opérations militaires pour quand même garantir leur succès et leur efficacité ne peuvent pas faire l'objet d'une révélation publique pour vous dire demain à telle heure, à tel endroit, des opérations vont être lancées. Mais nous pouvons vous dire tout simplement que à l'instar de la volonté exprimée par tous les envoyés spéciaux, y compris le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a co-signé, comme vous le savez, le communiqué de presse des envoyés spéciaux. Donc c'est pour vous dire que notre détermination est sans faille et que nous sommes dans une dynamique commune, une dynamique collégiale, et je pense que l'expression de la communauté internationale à travers les envoyés spéciaux est assez claire, et donc le processus de reddition a été insuffisant et nous n'excluons pas jusqu'à présent la conduite des opérations militaires conformément aux instructions qui ont été données aussi bien par la SADC, la CIGLR et tous les envoyés spéciaux. Donc les opérations ne se révèlent pas en public, mais sachez que nous avons la capacité et la détermination à les conduire n'importe quand, n'importe où, à tout moment, contre les FDLR au besoin.
Colonel Félix Bass, je vous remercie.
Et pour la nouvelle de province, une trentaine d'acteurs de la société civile de l'Ituri ont réfléchi jeudi sur les recommandations de l'examen périodique universel 2014, des recommandations formulées au cours d'un sommet qui a regroupé plusieurs pays dans le monde sur la situation des droits de l'homme. Selon le commissaire de district de l'Ituri, Jean-Robert Moyemba, qui a présidé cet atelier, l'objectif est de faire le suivi et l'application de toutes les recommandations issues de ce sommet sur le plan local. Il s'agit notamment des secteurs de la justice, la lutte contre les violences sexuelles, l'éducation, la santé et la protection des personnes vulnérables. Cette journée de réflexion a été organisée par le Bureau conjoint des droits de l'homme, la MONUSCO. Écoutez à ce sujet Jean-Robert Mayeba Vundwawe, commissaire de district de l'Ituri. Ses propos sont recueillis par Martial Kizabiamung.
Concrètement, c'est d'abord la prise de connaissance de ces recommandations et des deux, faire le suivi de ces recommandations pour qu'on puisse commencer à appliquer ces recommandations au niveau local, parce que toutes les recommandations ne peuvent pas être appliquées au niveau national. Alors, la part qui devait revenir aux autorités locales, on devait s'engager à faire appliquer cela pour essayer de faire avancer les statuts de la RDC en matière de respect des droits de l'homme. On travaille conjointement avec la société civile et les bureaux conjoints pour essayer un peu de sanctionner les cas de violences.
Quelles sont les recommandations qui vous concernaient au juste et dans quel secteur?
Il y en a nombreux, mais on ne saura pas citer, mais tout ce que je dis, c'est que bientôt le texte final sera publié et on va rendre ça public au niveau du média pour que tout le monde comprenne et qu'en partenariat avec la société civile, on puisse s'investir pour faire appliquer cela.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Le bilan des opérations militaires contre le FNL a fait l'objet d'une question posée par un collègue de Goma et à laquelle répond le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé des opérations à l'Est. Suivez.
C'est Félix Abeli, ici à Goma, qui vient poser la question au journal Abdallah Wafi. Je pense que vous avez lancé les offensives contre les rebelles des FNL. Alors, dans chaque opération, il y a toujours des bilans. On va savoir du côté des ennemis qui ont été tués, qui sont blessés.
En ce qui concerne l'opération à laquelle vous faites référence, c'est une opération qui est encore en cours actuellement. Cette opération est en cours, elle n'est pas terminée. Une fois les opérations terminées, nous allons établir un bilan précis du nombre de tués, de blessés, de rendus. Avant de rentrer dans cette salle, j'étais en contact avec Aloïs Nzamapema, qui est le chef de FNL et qui est un ancien officier déserteur des forces burundaises, qui demande à se rendre, qu'on arrête les opérations. Donc encore une fois, cela fera partie de l'ensemble du bilan, y compris une fois que nous aurons obtenu la reddition de tous ces combattants. Donc, je vous demande un peu de patience. Le moment venu, nous allons faire un bilan complet.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Oui, je m'appelle Maurice Mwanda. Je suis père de 5 enfants. J'ai 4 garçons et une fille. En ce qui concerne mes études, je suis gradué en anglais de l'Université de Kinshasa et puis je fais aussi les 6 années de commerce comme gradué en sciences commerciales. Et comme expérience professionnelle, je suis ici à la MONUSCO, ça fait 12 ans. Je suis dans la section CITS. CITS signifie, c'est la section de communication de l'information. C'est là où nous occupons de toute la technologie de l'informatique. Et mon travail consiste à lancer les vidéoconférences, c'est-à-dire à organiser les réunions qui se lancent par vidéo, c'est-à-dire les gens qui sont dans tous les secteurs comme Goma, Lubumbashi, Kinshasa, Kalemi, Beni, et parfois Bukavu, Kigali et Entebbe, c'est-à-dire que si, comme la nouvelle politique de la mission, on essaie un peu de réduire le coût des trains de voyage, on organise les réunions à partir des vidéoconférences. Donc c'est ce que je fais chaque jour. Quand je viens, en tout cas chaque jour je suis là à 7h du matin, je vérifie les emails, s'il y a des échanges où je dois répondre, ou il y a des réservations des conférences, je peux les faire. Et je démarre des appareils pour les mettre prêts pour la conférence ou les différentes conférences qui vont se tenir le lieu. Et chaque jour, on a presque 10 conférences. Donc, on doit organiser ça d'une façon succincte et on doit vraiment être à la hauteur de notre tâche. Alors, à ce qui concerne mon expérience passée, je peux dire que j'ai travaillé dans beaucoup de places. Il faut savoir qu'avant de venir travailler à MONUSCO il y a 12 ans, j'ai été aux États-Unis, j'ai fait 11 ans. Et là-bas, j'ai travaillé dans différentes places. J'ai été aux États-Unis dans l'état de Caroline du Nord, dans la ville appelée Raleigh. Là, vraiment, j'avais fait presque 10 ans là-bas. Et puis, je suis descendu au sud, en Géorgie, dans la capitale des Jeux qu'on appelle Atlanta. Donc, de là aussi, j'ai fait un peu d'études de programmation en informatique. C'est ça qui m'a donné aussi la chance de venir travailler à MONUSCO avec les atouts dans l'anglais et l'informatique. Mon temps libre après le travail, parce qu'ici, nous travaillons de lundi jusqu'à vendredi. Souvent, les samedis, j'ai fait la marche. Comme un ancien sportif, donc j'ai l'habitude de courir un peu. Et surtout dans les endroits où nous habitons à Kinkole, il y a vraiment ce qu'on appelle l'espace ouvert. Je peux courir de Kinkole jusqu'à l'aéroport et puis retourner. C'est ça qui me fait détendre un peu le week-end. J'aime la musique religieuse en général. J'ai un musicien chrétien que je préfère, c'est Aimé Kanou. Ma vie est qu'une fleur, un parfum pour toi donner. Quelque chose comme ça. Donc, vraiment, quand j'écoute ces cantiques d'Aimé Kanou, ça m'édifie. Et c'est presque toute la famille qui est autour de moi quand je sens ces différentes cantiques d'Aimé Kanou. Et n'oubliez pas que aussi, je suis congolais. Il faut que j'ai aussi apprécié la musique de la culture générale. J'aime Jivem Piana, vous savez, Jivem Piana c'est l'un des musiciens classiques que j'aime depuis mon enfance. À ce qui concerne mes perspectives d'avenir, il faut aussi ajouter que dans mes temps libres, je suis président d'une ONG qu'on appelle Volontaire pour la question des salubrités et développement. Donc dès que je quitterai la MONUSCO, peut-être que je peux devenir full-time pour commencer à travailler pour les pays. Donc vraiment, nous voulons qu'on puisse travailler en volontariat pour développer ces pays.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
pas de rendez-vous à retenir dans les agences onusiennes pour la semaine qui commence. En revanche, quelques dates du programme de travail provisoire du Conseil de sécurité de l'ONU pendant cette période. Alors, mardi 13 janvier, séance d'information sur l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Le mercredi 14 janvier, ce sera l'adoption des sanctions concernant la République centrafricaine. Et le jeudi 15 janvier, un débat public sur le Moyen-Orient. Votre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Jean-Pierre Elali Coco était à la coordination. Et on aurait mis Sina Kalala au reportage. Lydie Bettina vous l'a présenté avec plaisir. Et Jean-Claude Siala la mise en onde pour vous. L'émission est à réécouter sur notre site internet, le www.radioocapi.net. Merci de nous rester fidèles aussi en 2015. Et encore une fois, une bonne année à toutes et à tous.